Slate Podcast.
Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Clarence est un homme trans de 24 ans. Tatoueur à Bruxelles, il nous accueille chez lui pour discuter de son parcours sexuel. Dans son grand appartement, le chat Quack nous regarde avec la défiance des chats qui ont l'habitude de voir passer du monde. Avant de s'installer au micro, Clarence ne cache pas son stress et fume ses cigarettes roulées dans son canapé. On déplace la table de cuisine au milieu du salon lumineux, deux grands verres d'eau devant nous, et l'angoisse s'estompe vite. Pour une meilleure compréhension de cet échange, je vous propose un petit lexique d'introduction. Je précise que j'ai demandé à Clarence de valider ses définitions. Trans se dit des personnes ayant une identité de genre différente de celle assignée à la naissance. En opposition aux personnes cis, qui, elles, ont un genre qui correspond à leur sexe biologique. Le terme non-binaire désigne les personnes qui ne se reconnaissent pas dans une norme binaire de genre. Ces personnes ne sont ni hommes ni femmes, mais soit entre les deux, soit un mélange des deux, soit aucun des deux. Bonjour Clarence.
Bonjour.
Alors on va attaquer tout de suite avec ta première fois.
Oui.
Tu avais quel âge à cette première fois ?
J'avais 16 ans, j'étais au lycée en seconde.
Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? C'était prévu ?
C'était pas prévu du tout, parce que ma relation était un peu compliquée avec la personne. C'était ma première copine, elle avait fait un peu du forcing pour qu'on sorte ensemble, et je savais pas vraiment si j'étais amoureux. Maintenant je sais que j'étais pas amoureux, j'étais juste très admirative d'elle, et elle m'impressionnait, j'étais très flattée qu'elle s'intéresse à moi. Mais j'étais pas du tout intéressée à ce moment-là à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. Et du coup, elle était tout le temps en train de parler de cul et de faire plus ou moins comme si elle s'y connaissait déjà très bien. Ce que j'ai compris plus tard n'était pas le cas non plus, mais elle essayait de se rassurer elle-même. Et elle me faisait du pied, machin et tout, et je savais vraiment pas comment réagir. J'étais toujours très mal à l'aise et j'essayais de faire passer les moments le plus vite possible. Sans rien lui dire, parce que la communication était assez nulle.
À 16 ans, c'est souvent le cas.
À 16 ans, oui, c'est ça. Mais c'était vraiment zéro communication, quoi. Et puis un jour, elle a dormi chez moi, chez mes parents, pour la première fois. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que j'ai essayé d'oublier cet épisode pendant très longtemps. Mais juste, elle voulait visiblement qu'on fasse des trucs. Je me souviens juste que j'ai passé 15 minutes à lui tripoter les seins sous son ordre, plus ou moins, en n'ayant vraiment mais aucune envie d'être là. Et c'était très inintéressant, et c'était absolument nul. Et après, j'ai réussi à me mettre en boule dans un coin et faire comme si je dormais tout le reste de la nuit.
Tu as fait semblant de dormir.
Voilà.
J'ai un souvenir de lycée qui est un peu comme ça. Tu dors ! Et après, tu réponds pas pendant.
Oui. Mais sauf qu'elle
te laisse tranquille.
Elle savait très bien que je dormais pas. C'était très gênant. C'était très gênant.
Alors, tu as eu une. Quand on en a parlé un petit peu avant, tu as eu une seconde première fois.
Oui. Qui s'est passée quelques mois après, peut-être 6 mois après. J'étais, du coup, en première. Toujours dans la classe de cette fille-là. Mais j'avais décidé de sortir avec un garçon de la même classe. Parce que c'est toujours une bonne idée. Pour le coup, lui, j'ai pas eu de soucis, j'ai tout de suite su que j'étais amoureux. Et du coup, on s'est intéressés naturellement l'un à l'autre, physiquement et sexuellement. Et on a eu, comme tout le monde, mais plein de premières petites fois à la suite les unes des autres. Genre, je me souviens de la première fois où il m'a mis des doigts. Ou enfin, juste, il a mis un doigt et j'ai joui parce que c'était bien. Je regrette cette époque quand c'était si facile. Et puis, on a eu notre première fois telle que c'est censé être. Première pénétration et tout. Ça, je m'en souviens pas comme d'un moment particulier. Enfin, je me souviens pas avoir été très stressée ni quoi. Et c'était exactement comme je l'imaginais, c'est-à-dire rapide, pas extrêmement intéressant. Et puis après, c'était fait, mais c'était surtout...
Mais t'étais excitée, t'en avais envie?
J'étais excitée, j'en avais envie carrément, mais juste même les bisous dans le cou et tout ça, c'était de toute façon c'était le summum de l'excitation déjà à ce moment-là. Et du coup l'acte en lui-même c'était pas vraiment pas très intéressant. Enfin bon, ça a dû durer 5 minutes au maximum. Ouais, c'était pas le plus intéressant sexuellement qu'on ait fait. Je veux dire, juste le doigt mentionné avant était mieux. Mais c'était juste intéressant en termes d'intimité. Parce que ça nous rapprochait aussi. Et c'était le côté, on a fait notre première fois ensemble. Donc, y a plus de honte, machin et tout. Et après, la vraie vie sexuelle a pu démarrer.
À l'époque, tu te définissais déjà comme bisexuelle?
Oui, je me suis jamais vraiment posé la question parce que j'ai eu la chance, visiblement, d'avoir des parents très ouverts et où je me suis jamais posé la question est-ce que je vais être, quand je commencerai à m'intéresser à des gens, est-ce que je vais être homo, est-ce que je vais être bi, est-ce que je vais être hétéro ou quoi. Je me suis toujours dit, ben, je m'intéresserai à des gens dans ma vie et je serai amoureux sûrement des tas de fois et ce sera des gens et voilà, peu importe quoi.
T'as précisé que la première fois avec cette fille, t'en avais vraiment pas envie.
Oui.
C'était quoi la différence? Il s'est passé juste quelques mois entre les deux histoires. C'est quoi qui a déclenché chez toi cette envie de le faire?
Bah, juste le fait de me rendre compte que j'étais vraiment amoureux de ce garçon. Enfin, elle, je n'arrivais pas à savoir si c'était le cas ou pas. Mais quand je suis tombée amoureuse de lui, c'était tout de suite évident que être amoureuse, c'était beaucoup plus comme ça. Et que c'était pas céder à quelqu'un qui te demande pendant 6 mois de sortir avec toi juste parce que tu la trouves jolie et cool, quoi. Et du coup, ben, vraiment, je me suis posé aucune question avec ce garçon. Genre, on a commencé à se voir en dehors du lycée, on a commencé à se faire des bisous, et genre, pareil, c'était pas la communication verbale, mais on savait qu'on avait envie de la même chose tous les deux, et tout s'est fait, genre, progressivement et très très naturellement.
Vous êtes restés longtemps ensemble?
On est restés 3 ans ensemble.
Une grande histoire.
Une grande histoire de merde.
Ça a tourné pas bien après?
Pendant 1 an et demi, c'était vraiment super. C'était l'amour de ma vie. On passait notre temps à niquer parce qu'on adorait ça tous les deux. Et vraiment, je plains nos pauvres parents parce que ben, on habitait tous les deux chez nos parents. Et on disparaissait 5 heures pour baiser à tout moment. Ma mère rentrait du travail, on était en train de chercher des culottes et des caleçons dans tout l'appartement. C'était super pour elle, je pense. Et puis, au bout d'un an et demi, ça a commencé à devenir compliqué.
Qu'est-ce qui s'est compliqué à cette période-là, au bout d'un an et demi?
Alors, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à plus avoir de désir sexuel pour lui. Et progressivement, en fait, à plus être amoureux non plus.
Est-ce que à côté de ça, t'avais du désir quand même? Est-ce que tu pratiquais la masturbation, par exemple?
Oui, complètement. Mais ça, depuis, je pense, mes 9 ans, je me branle un max. Vraiment, genre, très souvent. Et particulièrement quand je suis stressée. Je suis une personne très stressée. Donc, très, très, très souvent. Et ça a rien changé de ce côté-là. Enfin, quand j'étais seule chez moi et que j'avais le temps, je me branlais, globalement. Mais ça faisait 1 an et demi qu'on avait construit cette relation, ou plutôt qu'il avait construit cette relation de manière très très étouffante, en m'excluant pas mal de toutes mes autres relations. Donc il était assez manipulateur, il était très très présent, il m'envoyait tout le temps des messages, si je répondais pas dans la minute, j'avais 15 messages, 3 appels, enfin, je pouvais pas aller voir ma meilleure amie sans qu'il me fasse une crise de jalousie et qu'il pleure. Il m'avait créé ma propre petite secte juste pour moi, où au point où notre plan c'était, enfin son plan, mais du coup voilà, c'était qu'on aille vivre dans les bois loin de la civilisation et qu'on n'en revienne jamais. Et parfois je fondais en larmes genre chez ma mère en regardant ma mère et en me disant genre bientôt je vais plus jamais la revoir et elle est pas au courant. Voilà. J'avais réussi à obtenir l'autorisation de prendre un ordinateur et des DVD pour ce futur super plan. Pour pouvoir quand même profiter de ça.
T'as négocié les DVD pour,
ouais,
pour
incroyable. Et en fait, du coup, ben, j'ai pas voulu le quitter, j'ai pas réussi à le quitter quand je me suis rendu compte que ça allait vraiment plus, parce que il me faisait beaucoup de chantage sentimental, un petit peu de chantage au suicide aussi, et j'étais vraiment persuadée que si je le quittais, il allait se tuer ou finir en dépression ou quoi, et que tout allait être ma faute et que ça allait être horrible. Donc, j'ai attendu 1 an et demi de trouver le courage et j'ai passé 1 an et demi à subir une relation que je voulais pas, et enfin, donc des relations sexuelles que je voulais pas du tout, mais que j'avais l'impression de lui devoir. Voilà.
C'est quoi qui a déclenché le fait que tu décides que ce soit fini?
C'était assez rigolo en soi. Enfin, l'histoire me fait encore rire, alors qu'en fait, tout est horrible, mais... Chaque été, on partait en vacances ensemble avec sa famille, à la montagne, dans le sud de la France. Et ils avaient 3 enfants, dont lui. Donc une fois on est parti et au retour il y avait pas de place dans la voiture pour moi, donc j'ai pris un covoiturage pour rentrer des vacances. Et dans le covoiturage il y avait un mec très 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 mignon. On a tout de suite croché fort l'un sur l'autre et on a passé un excellent voyage avec des accidents de voiture et tout, c'était génial. Bref, un très bon covoiturage. Ça a pas l'air comme ça mais c'était vraiment extraordinaire. Mais il m'a appris à faire du ukulélé, hyper cliché, enfin bref. Et quand je suis arrivée à Paris, je l'ai revu une fois, parce que j'avais demandé son numéro à la conductrice, à qui il avait lui dit que je lui plaisais beaucoup, donc elle me l'a donné. Et je l'ai revu une fois et le crush s'est confirmé. Et puis un week-end après, vraiment une semaine après le covoiturage, j'étais comme d'habitude chez ma mère avec mon copain dans mon lit, qui était en train de me dire comme d'habitude le petit jeu de genre ah, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» auquel ça faisait un an et demi que je répondais « Oui, je t'aime, bien sûr », en ne pensant pas du tout. Et là, genre, il m'a demandé, j'ai fait « Non, genre non, je t'aime pas, genre je t'aime plus, c'est fini et tout ». Et ouais, on a passé 2 heures à pleurer toutes les larmes de notre corps dans ce lit, jusqu'à ce que son père vienne le chercher. Et j'étais absolument dévastée parce que même si la relation était horrible, et je m'en rends compte maintenant, bah sur le moment c'était quand même la personne, la première personne dont j'avais été vraiment amoureux, c'était la première personne avec qui j'avais fait des trucs sexuels et tout. Enfin c'est la personne à qui j'avais donné le plus de confiance et de moi que j'ai jamais donné. Et du coup c'était comme enlever un bout de moi. Et du coup oui, j'étais en train de pleurer au repas du soir dans mes pattes face à ma maman et je lui ai dit que je pouvais pas rester dans l'appart là parce que c'était trop. Et du coup j'ai envoyé un SMS au garçon du covoiturage et je suis allée dormir chez lui. Et j'en suis pas vraiment repartie.
Une nouvelle grande histoire a commencé ?
Une nouvelle grande histoire qui a bien commencé et bien mal fini.
On va faire une petite pause maintenant basée sur le jeu à boire « je n'ai jamais ». Ce qu'on va inverser, on va faire « j'ai déjà ». Je vais te donner des affirmations et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose, si t'as des anecdotes sur le sujet ou pas du tout, ou si c'est des trucs qui te font envie ou, okay. Ou pas du tout. Très c'est bien. Possible aussi.
Ça marche.
J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires.
Non, pas encore. Mais j'espère que ça arrivera.
T'en es au stade de l'organisation ou c'est...
Non, je suis au stade où j'ai pas assez confiance en moi pour gérer ça. Enfin, sexuellement, je suis plutôt le soumis et pas forcément passif, mais ça reste de ce côté-là. Et du coup, autant j'ai très envie de faire des choses où c'est moi qui prends entièrement l'initiative, autant j'essaye de grappiller mon courage là où je peux. Avant d'y arriver, mais ça me fait très très envie.
Ouais. Et ça c'est un grand step.
Ouais, mais clairement c'est dans mes plans de vie futurs, oui.
C'est un bon plan de vie, on ne dit pas assez, mais c'est un très bon plan de vie. Et effectivement, moi, je dis, il faut de la préparation à tous les niveaux. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel.
Du matériel...
Ah, ça peut être plein de choses. Ça va être un godemiché qui ne va pas, un vibro, une capote, un lubrifiant, ce que tu veux. Ou un truc qui, à l'origine, n'était pas du matériel prévu pour, c'est possible.
Non, vraiment pas. Enfin bon, il y a sûrement mon vibro qui a dû s'arrêter plein de fois en plein milieu parce qu'il a une durée de vie très nulle. Mais non, je crois pas. Matériel différemment, oui, genre rompre un frein, c'est matériel en soi.
Alors, il va falloir que tu nous racontes un peu plus comment ça se passe, parce que c'est la première fois qu'on nous en parle.
Bah, ça serait bien passé, écoute. J'étais juste avec un de mes amoureux en train de baiser, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait du sang partout et que ça ne provenait pas de moi. Et il n'avait pas senti grand-chose, juste il saignait du frein abondamment. C'était pas vraiment le bon moment, parce que on venait de baiser dans à peu près toute la maison de sa mère et on en était actuellement à l'évier de la cuisine. Donc il y avait du sang un peu partout. Donc il n'avait pas trop mal et tout, ça va. Il me semble qu'on a continué.
Ah ouais? Enfin,
qu'on a essayé. Mais puis après on s'est dit qu'on allait juste nettoyer.
Et aller voir un médecin ou quoi, ou non, même pas?
Non. Je pense qu'il était pas rompu. Je sais pas, il était juste abîmé, mais ça lui était déjà arrivé. Et visiblement, comme ça lui faisait pas mal, il avait décidé de ne pas consulter. Et de rester seule avec ses 10 litres de sang par terre, voilà.
Écoute, c'est la première fois que tu me la racontes, donc j'allais te demander justement, il paraît que ça saigne beaucoup, mais bon, donc tu...
Bah oui, ça saigne beaucoup, oui.
Et on peut dire que c'est du matériel. Je suis tout à fait pour
voilà.
Que c'est du matériel, effectivement. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe.
Oui, ou à peu près n'importe quoi. Mais oui, principalement pendant les cunis ou la fellation. J'ai tendance à penser à autre chose. Bah les cunis parce que ça me fait pas un effet extraordinaire, donc mon esprit peut vagabonder
librement. Quand tu reçois du
librement.
Coup plus que quand
Oui, quand je reçois. Et les fellations parce que autant j'adore en donner, autant je peux aussi faire ça et penser à des tas de choses à la fois très différentes.
Tu crois que le partenaire s'en rend compte ?
Je sais pas. J'en ai déjà parlé avec mon dernier partenaire et que ça arrive aussi de penser à autre chose parfois durant le sexe. Mais ça me paraît assez normal, je pense.
Puis avec le stress et la vie et les trucs, évidemment. Il y a
oui,
toujours des idées
t'as toujours un truc à quoi penser, quoi.
C'est pas honteux.
Non. C'est pas forcément signe que tu t'ennuies non plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est jamais vraiment quand je m'ennuie particulièrement. C'est juste mon esprit se promène aussi parce que je suis relâchée et que...
C'est plutôt bon signe.
Oui, en
c'est
soi,
une façon
c'est
de voir les choses. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre.
Non, ça m'est jamais arrivé.
Alors même quelqu'un de connu, par exemple une célébrité.
Non, absolument pas. Je suis désolée. Je...
Ah mais non, mais il y a vraiment deux écoles. Il y a les gens qui ont déjà pensé ou pas pensé à quelqu'un qui, genre leur voisin ou un ex ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui tout de suite partent sur des trucs de célébrité.
Oui, si. Ok. Alors dans un certain sens, j'ai déjà pensé à un ex, mais pas d'une bonne manière. Juste un trauma lié à cet ex-là, et du coup, il y a certaines positions, je sais pas pourquoi ça s'est focalisé là-dessus, mais certaines positions dans le cul où genre je bloque, et genre je vois sa gueule quand on fait cette position-là, et en général du coup je peux pas continuer. Donc j'y pense, mais pas d'une manière...
Positive
du tout.
Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour.
C'est quoi, pas prévu pour ?
Alors, effectivement, on peut définir le pas prévu pour. Des endroits publics, des endroits fermés, mais publics quand même. Genre des toilettes d'endroits, par exemple. Ou la nature, ou plein de... Enfin, il y a en gros tout ce qui n'est pas ton domicile direct.
Non, pas vraiment. Enfin, si, il y a un peu le truc cliché, mais c'est déjà arrivé. Tu sais, de quand tu te frottes dans le bus, là.
Genre, alors,
je sais pas, il y a plein de gens qui en parlent. Donc, c'est, pour moi, je me dis...
Okay, il va falloir de nouveau que tu nous définisses un petit peu cette histoire.
Mais non, mais... Tu portes un jean, ça frotte sur ton clito, t'es dans le bus, il y a les vibrations, t'es en train de rentrer chez toi, t'en as marre, tu viens de rentrer des cours et tu t'emmerdes. Et bah, du coup, tu te frottes un peu, genre, ça fait passer le temps.
Je vois tout à fait. Je ne pratique pas, mais parce que je prends un peu le bus, mais là, du coup, maintenant, je commence à y réfléchir. Alors, moi, on n'a jamais trop parlé, évoqué de cette manière-là, mais je trouve ça très intéressant et pour le coup, ça nous sort une vraie idée originale. Alors par contre, je vais préciser que contrairement aux gens qui se frottent contre des gens dans le métro, là, ce type de masturbation, c'est évidemment avec soi-même.
Évidemment, je ne touche rien, mais je me touche même pas avec mes mains, c'est juste le jean, la couture, tout va bien. Et la vibration du bus, ça aide.
Bon, j'imagine qu'on espère un peu les dodanes et tout.
Quand on connaît bien le trajet. C'est un petit peu ça aussi. Mais c'est un peu la même chose que quand t'es à vélo et t'es à la salle.
Exactement.
Classique.
Mais en fait, c'est une stimulation qu'on peut avoir n'importe quand, quoi.
C'est ça.
Selon la tenue qu'on porte et tout. J'ai déjà éjaculé.
Oui.
C'était bien.
Oui. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et oui, je trouve ça très mignon. Enfin, c'est satisfaisant, c'est drôle. Après, c'était bien parce que ça arrive... surtout quand tu te fais doigter, genre, d'une certaine manière. Et à un moment où, du coup, tu dois être très relâché, justement, et pas crispé, quoi. Donc, c'est forcément un chouette moment. Mais par contre, c'était une éjaculation, mais c'était pas un orgasme à chaque fois. La plupart du temps, c'est pas moi qui m'en rends compte, c'est genre la personne qui est avec moi.
Et c'était volontaire ou c'était c'était prévu, c'était genre alors ce soir ?
Absolument pas, non. Non, ça arrivait une fois par hasard dans ma dernière relation et depuis c'est arrivé quelques fois. Mais c'est des bébés éjaculations. J'espère qu'un jour je pourrai genre éjaculer à la gueule de quelqu'un.
Alors
violemment.
Le truc qu'on dit quand c'est comme ça, c'est que si on prévoit le truc et qu'on veut vraiment que ce soit violent, il faut boire un demi-litre d'eau avant le rapport sexuel. Ouais. A priori, ça marche mieux.
Ok, oui, je me doute, mais enfin.
Mais c'est, il faut vraiment prévoir le truc, quoi. Ça doit être un objectif,
c'est
comme
ça.
Un projet de vie.
Mais j'aime pas me mettre des objectifs à l'avance là-dessus.
On peut comprendre. Augmente ta consommation d'eau en général.
Oui,
c'est par hasard, ça peut pas. Donc après une longue histoire de 3 ans, a commencé avec celui qu'on appellera le type du covoiturage, qui est aussi le type au ukulélé.
Oui.
Une deuxième grande histoire. Comment ça s'est passé cette histoire ?
ça a été plus condensé cette fois-ci, puisque ça a duré un an. Donc je pense que ça a duré 7 mois où c'était très très bien. Pareil, c'était très sexuel et assez fusionnel. Enfin, je vivais toujours chez ma mère, mais j'étais globalement tout le temps chez lui. Et on baisait tout le temps. Parce que voilà. Et puis, pareil, au bout d'un moment, j'ai commencé à plus avoir envie. Et ça suit le même schéma globalement. Donc, j'avais plus envie. Donc, je lançais plus rien. C'était lui qui prenait l'initiative à chaque fois. Et puis, je disais que j'avais pas envie au début ou quoi. Et puis après, c'est genre, ah, mais je t'aime. Ah, mais tu sais pas comme tu m'excites de ouf, machin. Donc, du coup, tu finis toujours par le faire, sorti de la culpabilité qui ne devrait pas être là. Jusqu'au jour où, genre, ça s'est passé comme ça. Et j'avais dit non pas mal de fois. Et du coup, il était en train de faire son truc. Puisque je participais absolument pas. Et je me suis rendu compte que, genre, enfin, que c'était pas normal. Et j'ai frisé, quoi, genre. J'avais plus de réaction du tout, juste mon cerveau qui était là en mode alerte, c'est pas normal. Du coup, il a fini son truc, j'étais absolument inerte, et je suis partie, je suis rentrée chez moi, et tout le trajet, j'étais vraiment en train de me dire que c'était... Bah, que je venais de me faire violer, quoi, et c'était horrible de sortir ce mot-là, quoi. Et du coup, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je lui ai donné rendez-vous le lendemain pour lui en parler, parce que j'avais l'impression qu'il se rendait pas compte. De ce que ça impliquait pour moi. Et puis du coup, on a eu rendez-vous le lendemain, on est allé au cinéma. À mon avis, c'était pas mon idée, c'était la sienne, parce que il a pas dû capter quand je disais « il faut qu'on se voit demain, j'ai un truc à te dire », que c'était grave, donc il en a profité pour en faire un petit date normal. On est allé au cinéma, et du coup, j'en ai parlé dans la salle, assis côte à côte, dans le noir, pendant les pubs, je pense. Ouais, ou avant. Mais moi, j'étais hyper mal, quoi, forcément, et je me sentais aussi super mal de lui dire, parce que j'avais peur qu'il le prenne mal, j'avais peur, genre, qu'il me dise aussi, que j'avais complètement imaginé le truc, ou quoi, enfin, j'étais sûre de ce qui s'était passé, mais j'étais pas sûre de moi du tout, quand même, et du coup, je lui ai dit, je pense pas que j'ai dit le mot viol, mais je lui ai dit que c'était pas normal ce qui s'était passé, et que ça me mettait très mal, et tout. Et dans mon souvenir, il a répondu quelque chose comme « Ah, désolé, je savais pas, je ferai plus gaffe la prochaine fois. » Et bah, j'ai rien trouvé à répondre, donc on a regardé ce film, qui est un film que j'adore. Donc bon, c'est bien.
Tu vas me dire ce que c'est.
Je crois, c'est un Mission Impossible, je sais plus le combien. J'adore ce film, il est trop bien.
Ça t'a pas... bon, alors au moins non, le film, bon...
Ouais, je l'ai revu un milliard de fois et je l'adore, ça m'a pas gâché le film.
Ça c'est bien, ça c'est le plus important.
Mais ça s'explique aussi probablement par le fait que du coup, on est sorti du cinéma. Du coup, lui, il avait décrété que tout était comme d'habitude, donc ouais. Tout était comme d'habitude. Et en fait, j'ai complètement oublié cette histoire.
D'accord.
Pour tout le reste de notre relation, et je m'en suis souvenue plus tard, un an après. Et donc du coup, je l'ai quitté quelques mois après, parce que j'avais vraiment plus de sentiments. En voulant rester bonne amie avec lui. Et je me souviens, j'ai retrouvé des messages sur Facebook, les derniers messages que je lui avais envoyés en lui disant oh, « je suis trop triste et trop désolée de plus avoir de sentiments parce que t'étais vraiment une super personne, machin et tout. » Bon, mon cerveau a fait le déni, mais fois mille, quoi. D'ailleurs, on s'est revus une ou deux fois après, il me parlait du fait que sa nouvelle copine, c'était pas comme moi et qu'il aimerait tellement qu'on refasse des trucs ensemble. Bref. Une grosse merde, en fait, mais j'avais oublié, du coup.
On voit souvent les choses un peu différemment, a posteriori, surtout on prend du recul sur les choses, et c'est toujours pour le mieux, on se rend vraiment compte de ce qu'on ressent quand on n'est plus sous emprise, quand on n'est plus le nez dedans totalement. Et puis le viol conjugal, c'est tellement compliqué à appréhender, oui. Parce qu'on a estimé même pendant des générations que c'était quelque chose de normal, que c'était pas du tout un viol.
En effet.
Heureusement, là, de plus en plus, on commence à en parler, les victimes en parlent, et puis les enfants de victimes aussi. Enfin, je veux dire, même dans le cadre de la famille, ça sort, quoi. On estime plus qu'on doit des choses sexuellement à son partenaire ou à sa partenaire.
Oui.
Déjà, le voir qu'on l'a vécu et qu'il faut pas que ça se reproduise.
C'est déjà bien.
C'est déjà un bon pas vers aller mieux après, quoi. Et puis trouver mieux, même dans son couple, je pense que se dire au premier non, si la personne commence à négocier,
clairement,
ça sent pas bon, quoi.
Pendant longtemps aussi, je me suis dit, j'ai appris de la manière difficile, mais au moins maintenant je sais. Mais en vrai, ça laisse tellement de trauma et de fragilité, et ça complique tellement les choses que je préférais quand même que ça ne soit pas arrivé, forcément.
Et on le souhaite honnêtement à personne. Enfin, oui, il faudrait pas que personne. Ce soit fondateur pour qui que ce soit.
C'est ça. Et ça l'est pas vraiment, genre, peut-être que ça apporte plus de compréhension sur les relations et plus, ouais, de sensibilité au niveau du consentement et de dans quoi tu t'engages quand t'as une relation sexuelle ou amoureuse ou les deux avec quelqu'un. Mais c'est vraiment trop de fragilité supplémentaire.
Mais après, bon, du coup, bah, ça fait partie de toi et c'est aussi une force. Être un survivant, c'est quelque chose aussi de particulier et ça place aussi qui tu es aujourd'hui, en fait. Donc, ça, c'est ton histoire. Quelques temps après, alors que tu avais passé littéralement toute ta vie jusque-là à croire que tu étais une femme cis, tu t'es rendu compte que c'était pas le cas.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu mettes enfin des mots là-dessus?
Alors, je pense que c'est lié à cette histoire. Parce que du coup, comme je disais, un an après, je suis sortie du déni. À ce moment-là, j'habitais à Bruxelles avec un autre copain que j'ai rencontré après. Et je vivais ma petite vie tranquille. Et du jour au lendemain, mon cerveau m'a dit « Tiens, il y a un an, tu t'es fait violer. Bon courage pour dealer avec ça. » Et ça a été très difficile parce que du coup, j'avais pas de trauma ou rien. Et tout est arrivé à ce moment-là. Et comme j'étais assez isolée à ce moment-là, enfin, j'étais avec mon copain, il était très chouette et tout, mais je voyais pas énormément de monde à Bruxelles. Et donc, j'ai commencé, pour m'auto-aider avec cette histoire-là, à regarder plus de trucs sur Internet, à plus m'intéresser au féminisme, même si j'étais déjà là-dedans. Et en fait, en découvrant un peu tous les milieux militants et tout, et donc du coup, ce qui m'a beaucoup aidée à accepter que c'était vraiment un viol et à réussir à m'en sortir, ça m'a aussi permis de découvrir le milieu queer et des tas de termes dont j'avais pas connaissance avant du tout. Et à ce moment-là, je suis tombée sur la définition de la non-binarité et j'étais là, oh, mais c'est moi. En fait, il y a d'autres personnes qui ressentent ça et c'est incroyable. Parce que je pensais que c'était dans ma tête et que c'était juste que j'appréciais pas le fait que être une femme, ça veut dire dans la société devoir avoir tel ou tel comportement, mais c'était au-delà de ça. Et du coup, oui, à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais non-binaire.
Ça a pris du temps. Quand tu as mis ce mot-là, ça a changé des choses chez toi. Tu t'es dit, c'est une libération et ça t'a pris un an, deux ans pour même changer, je sais pas moi, physiquement, changer des choses dans ta vie, changer des choses dans ta vie sentimentale et sexuelle. Ou pas du tout, c'était genre déjà totalement ce que t'étais et du coup, t'as juste mis une étiquette dessus.
Pour moi, c'était totalement ce que j'étais et effectivement, du coup, j'ai juste eu le terme, quoi, pour savoir qui j'étais. Et j'étais vraiment très content. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée à ce moment-là où, du coup, avec cette histoire de viol, ça allait pas super bien. Et du coup, j'en ai parlé aussitôt à des personnes proches de moi et j'ai fait un coming out hyper rapidement. Et pour moi, tout ce qui concerne le reste sur l'apparence ou quoi, ça a pas de lien avec ça. Enfin, parce que là, avant, j'avais effectivement une apparence qui est plus classiquement féminine que maintenant. Mais pour moi, ça n'a pas de lien, c'est une histoire de goût personnel, de praticité, enfin, aucun lien avec le genre.
T'étais en couple à ce moment-là?
Oui, j'étais en couple, avec ce garçon à Bruxelles. Et je lui ai pas dit tout de suite, je pense. Enfin, j'ai peut-être attendu un mois ou deux, quoi, le temps de m'acclimater moi-même à l'idée et d'en parler à quelques autres personnes en qui j'avais confiance.
Plus neutre, j'imagine.
Non, mais juste lui, comme c'était plus ou moins la personne la plus proche de moi, j'avais quand même une petite appréhension. Après, lui, c'était pas du tout quelque chose qu'il connaissait ou quoi, donc il a mis longtemps avant de se faire à l'idée. Enfin, il avait rien contre, mais avant de savoir utiliser les pronoms correctement, etc. Maintenant, c'est bon. Enfin, c'est un ami et c'est un très bon ami et il gère, mais ça a pris du temps.
Parce que du coup, quand tu as mis cette étiquette non binaire, t'as changé de pronom, enfin t'as décidé de changer de pronom tout de suite.
Oui, j'ai tout fait d'un coup. Hein, genre. j'avais pas le temps.
En non binaire, t'as choisi le pronom masculin.
J'avais choisi un pronom neutre, donc il. Mais après, c'est plutôt à l'usage où comme j'avais et j'ai toujours la plupart du temps une apparence jugée féminine. Les gens, en premier abord, vont me genrer au féminin. Donc, j'ai commencé à demander à toutes les personnes qui me connaissent de faire masculin pour faire une petite balance entre les deux.
Mais ça, c'est à l'usage, du coup, c'est au temps.
Oui,
et
c'est avec le temps.
Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose sexuellement pour toi ? Est-ce que ça a été libérant, par exemple ?
Je saurais pas vraiment dire, parce que du coup, le problème étant que j'ai découvert ça en plein...
En pleine relation.
Ah
oui, et puis en plein... Oui, traumatisme.
En plein dédaigni, donc en plein traumatisme. Et du coup, c'est pendant 6 mois, j'ai pas pu avoir de relation sexuelle à cause du traumatisme. Et le temps que ça passe, ma transition sociale, par exemple, était faite. Et donc, j'ai pas vraiment eu le sentiment que ça ait influé sur ma vie sexuelle du tout. Alors que, ben, du coup, me remettre du traumatisme, ça a influé forcément énormément sur, ouais, sur ma manière de relationner avec les gens, sentimentalement et sexuellement.
Pour le mieux?
Oui.
À t'écouter plus?
Oui.
Et tes limites?
Oui, oui, bien sûr.
On va faire notre deuxième petit jeu sur les œuvres qui composent ton imaginaire sexuel. Je vais encore une fois te citer des affirmations ou des bouts de phrases et tu vas me dire ce que ça t'évoque et ce que ça... Et il y a une petite histoire qui va avec, hein, souvent quand même. Il y a toujours une petite histoire.
Ok.
Le livre qui m'excite.
Il n'y a pas vraiment de roman ou quoi qui m'excite. Par contre, je me suis offert il y a quelques mois un livre aux éditions Ta Chaîne de dessins de Tom of Finland. Et qui est donc un mec qui a créé un énorme imaginaire visuel gay autour des figures hyper viriles et hyper stéréotypées, vraiment jusqu'au ridicule. Et c'était une imagerie qui m'intéressait pas du tout avant, enfin où je m'étais dit qu'il fallait même pas que je m'y intéresse parce que ben je me considérais comme une meuf cis et c'était adressé à des mecs gays. Comme maintenant j'apprivoise l'idée d'être ben un mec et d'avoir des tendances plutôt homosexuelles, biromantiques mais homosexuelles. Du coup, je me suis dit bon ben vas-y, on va regarder parce qu'en fait ça peut m'être adressé et ça me plaît vachement.
Tu t'es jetée dans le vif du sujet parce que comme au Finland, on est dans une imagerie très bare avec des personnages qui sont très poilus, très musclés,
oui.
Qui portent beaucoup de cuir.
Ouais, le cuir, c'est bien.
Il y a un petit côté village people dans son imaginaire.
C'est le cuir moustache.
Totalement cuir moustache. Mais très beau. Et puis, pour ceux qui aiment ce style, le mangaka Gengoro Tagame a un petit peu le même imaginaire avec ce genre de personnage bare aussi et ses dessins qui sont très explicites. Donc, si tu aimes.
Je connais pas, mais.
Je t'envoie vers ce. Voilà.
Je t'ai regardé.
Le film qui te fait vibrer.
Les aliens. Principalement le 3, où tu sais, ils sont sur une espèce de planète prison là. Et bon, c'est juste Ellen Ripley avec les cheveux rasés.
Alors, on est obligé de préciser maintenant que tu as les cheveux rasés.
Oui, mais alors attends, faut pas le dire. Si tu peux le dire, mais c'est juste, j'ai une fascination pour les gens aux cheveux rasés, sauf moi. Moi, j'ai les cheveux rasés parce que c'est pratique et confortable. Mais ouais.
Ripley, c'est quelque chose.
Ripley avec les cheveux rasés, c'est vraiment quelque chose.
Et le petit Marcel blanc, là.
Ouais. Et puis, il y a le côté aussi, genre, je sais pas, dans les aliens où ils sont un peu toujours enfermés quelque part, un peu confinés. Et ça met beaucoup plus de tension partout. Je sais pas, même les aliens, ils sont super sexuels. Enfin, ou alors c'est
tu
moi.
Tu trouves les aliens sexuels?
Oui.
Après, ils sont bavés.
Non, ils sont dégueulasses.
Ouais.
Mais
c'est ça, ça
non, m'évoque. Ils sont dégueulasses, mais tu vois, par exemple, l'image hyper connue où elle a la tête de l'alien juste à côté.
Mm-hmm.
Ils sont très proches et où il y a un moment d'attente comme c'est tout. Enfin, pour moi, c'est presque sexuel.
Alors après, il y a un truc aussi avec les œufs, en l'occurrence, les œufs d'alien, bon, qui sont là, une référence,
très, très littéral,
voilà, qui sont une référence directe au sexe féminin. Donc oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est moite un peu. Il y a
c'est
tout un truc
comme ça. Ça.
C'est la première fois qu'on me le cite, mais j'accepte avec grand plaisir. Je vais les revoir autrement. L'image qui me donne des frissons de plaisir.
Il n'y a pas d'image en particulier. Mais du coup, comme tu m'as posé la question, un peu avant, j'ai réfléchi, et s'il y a un truc qui marche bien avec moi, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est genre les images de fruits ouverts. Enfin, je sais pas pourquoi, mais il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, c'était la mode en photo, il y avait des shootings tout le temps avec une modèle au milieu de plein de fruits, en mode buffet comme ça, et avec tu sais, du jus qui dégouline, des fruits écrasés sous les coudes, ou en train de mordre dans une orange ou un truc. Et genre, je sais pas, ça me parle, enfin, ça touche tous les sens en même temps, genre je peux... tout de suite imaginer la texture des fruits, l'odeur, le goût, et genre le jus qui coule partout et tout. Pareil, c'est très littéral et ça marche très bien. C'est donc, très sexy. Je suis très excitée par les images de pamplemousse.
Eh bien, écoute, en plus, c'est le choix d'iconographie qu'on a décidé d'avoir pour première, dernière fois, en l'occurrence.
Ouais.
Ouais, pour, comme on peut pas montrer les gens.
Oui.
On a choisi à chaque fois des images liées à la nourriture. Donc, en l'occurrence, du miel, une banane.
Ah, bah oui. Mais ça, c'est l'image classique.
Voilà. Donc, on a utilisé cette imagerie aussi qui nous parle évidemment beaucoup. Le parfum qui réveille mes sens.
Alors, c'est mon parfum. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est mon parfum d'hiver. C'est Clair de Musc de Serge Lutens. Je trouve ça drôle parce que c'est un parfum, quand tu regardes les descriptions sur tous les sites de connaisseurs de parfums et tout, qui est jugé très sage et un peu froid et un peu le parfum des personnes coincées. Et je trouve que c'est pas du tout le cas. Je le trouve très sexuel, mais genre en sous-ton. Enfin, c'est...
Subtil.
C'est subtil, c'est très subtil. Et principalement parce qu'il y a du musc. Et genre, c'est la meilleure odeur du monde. Hyper animal à la base, forcément. Et ça se marie, je trouve ça se marie trop trop bien avec les odeurs de la peau, ça les fait ressortir. Et pour moi, du coup, c'est hyper sensuel, quoi, comme odeur.
C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui aiment le parfum de l'autre, comment il se développe dans le sexe. Et du coup, toi, tu amènes le parfum dans la relation et le rapport. Tu parlais du fait d'être un peu, alors pas passif, mais quelque chose un peu comme ça. Alors que là, c'est super actif. Tu sais ce que t'aimes et tu l'amènes, quoi.
Bah après, c'est probablement très égoïste, mais je me l'amène à moi en premier, quoi. J'aime juste être dans cette odeur-là.
Mais c'est important. Enfin, c'est hyper bien, même. La musique qui me met le mieux dans l'ambiance. Y en a-t-il une déjà ?
Oui, il y en a environ 12 000, je pense. Parce que. Enfin, c'est dur à dire parce que je suis très sensible aux ambiances, déjà dans les musiques. Et puis, je suis très souvent horny. Donc, après, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est venu en premier.
Toutes les musiques ont l'air sexuelles parce que.
Un peu. Mais s'il fallait réduire, je pourrais me limiter à 4.
Alors, déjà, est-ce que t'écoutes de la musique pendant le sexe ? Ou est-ce que pas du tout?
Pas spécifiquement, pas fait exprès, mais ça arrive souvent qu'il y ait de la musique qui tourne en fond chez moi, donc oui, ça peut arriver.
Alors c'est quoi ces 4 morceaux?
Ok, le premier c'est Toxic, de Britney Spears, forcément. Et le deuxième qui va avec, pour moi, c'est Make Me Feel, de Janelle Monáe. Parce que c'est les musiques qui parlent de cul et qui sont assez euphorisantes. Donc c'est genre, c'est le cul joyeux, t'as envie d'y aller, tu vois. Et en ambiance qui me correspond plus, un peu plus sombre. Sinon, j'aurais tendance à dire Take Me to Church de Ozier. Et la deuxième, ce serait une reprise de I'm on Fire par Bad for Lashes. Et elle est très belle.
On fera une petite playlist. Alors, on a parlé de ta première fois. On a parlé de ce qui s'est passé, des années qui sont passées jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on va évoquer ta dernière fois au moment où on se parle. Et c'était quand ?
C'était hier.
Félicitations.
Merci.
Alors, c'était avec qui ?
C'était avec une de mes relations amoureuses que j'ai depuis 2 ans.
C'est vrai que quand on a préparé cette émission, tu m'as précisé que tu étais polyamoureux.
Oui.
Donc, ce qui veut dire que tu es capable d'avoir plusieurs relations simultanées.
J'ai cette capacité.
Sexuelles ou pas. Et là, en l'occurrence, tu es dans des relations polyamoureuses.
Oui.
Donc avec une personne non binaire, c'est bien ça?
C'est ça.
Et une femme cis.
Exactement.
Et là, en l'occurrence, c'était, j'imagine, avec la personne non binaire.
Effectivement, vu que avec ma copine, qui est une femme cis, on a une relation plutôt platonique. Donc c'était avec l'autre personne, forcément.
C'était prévu ?
Bah c'était prévu parce qu'elle était chez moi et qu'on baisse tout le temps. Donc en soi, oui, on peut dire que c'était prévu.
C'était bien ?
C'était très bien. C'était aussi bien que celle de un peu plus tôt dans la journée. Ou du soir d'avant, je sais plus. Mais oui.
Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Le sexe a changé depuis 2 ans ?
Ça fait 2 ans qu'on se fréquente et qu'on couche ensemble. Mais ça fait un an qu'on est ensemble. Ça a un petit peu évolué, oui, quand même, on peut dire, parce que au début, forcément, il y a le moment de la découverte où on s'apprivoise un peu et on essaye de voir qui aime quoi et tout. Et en fait, jusque-là, j'avais été quasiment qu'avec... j'avais des relations sexuelles quasiment qu'avec des mecs cis qui avaient du sexe assez normé. Et oui, ils avaient probablement peut-être envie d'autre chose aussi, mais les choses ont fait que les conversations sont pas forcément arrivées ou quoi. Et moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la soumission et j'ai toujours plus ou moins essayé de le pousser un petit peu dans mes relations, mais ça prenait pas forcément, ou c'était pas vraiment le délire de la personne en face, donc j'insistais pas non plus, quoi. Et là, avec la personne avec qui je suis, ça prend beaucoup plus.
C'était le cas hier soir, du coup ?
Hier soir, c'était tranquille, posé.
On dit vanille, du coup, quand c'est pas...
Oui, c'était
dans le spectre BDSM. Est-ce que t'as pris du plaisir ?
Oui, j'ai eu un orgasme, et ça m'arrive pas si souvent. Donc c'était bien. Enfin, même sans orgasme, ça aurait été très bien. Mais...
Est-ce que, en dehors du coup des conversations que vous avez sur qui a envie de quoi et quelles sont vos envies et là où vous avez du plaisir, est-ce que ça change quelque chose le sexe avec une personne non binaire dans ton expérience?
Non, je sais pas. Je trouve que c'est une question très très compliquée parce que j'en suis déjà juste moi à m'interroger. Genre, est-ce que moi le fait d'être une personne trans, ça change mes relations sexuelles? Et du coup, alors, impliquant l'autre personne, là, je saurais pas dire parce que je vois pas une différence fondamentale. C'est juste que c'est, en dehors du fait d'être non-binaire, c'est une personne avec qui c'est facile de communiquer et avec qui on peut avoir des relations, des conversations saines sur ce qu'on veut et tout. Donc, forcément, les choses sont bien plus développées que dans d'autres relations sexuelles et amoureuses que j'ai pu avoir.
Et plus riches, fatalement.
Et plus riches, forcément. Mais pour la non-binarité, je saurais vraiment pas dire si ça change quelque chose.
Tu es en couple aussi avec une femme, cis, et tu as précisé que la relation était platonique. Est-ce que c'est un choix de ta part, de sa part, ou l'histoire s'écrit comme ça pour l'instant?
C'est un choix de ma part, enfin qu'elle a validé, donc forcément. Ça avait commencé en n'étant pas forcément partie pour être platonique. Mon passé avec les filles fait que elle me terrifie. Absolument. Donc déjà qu'on soit ensemble, c'est assez extraordinaire parce qu'elle est trop chouette et tout. Mais le cul avec des filles, ça me terrifie un petit peu.
Ta vie sexuelle a commencé il y a 8 ans. Donc à l'époque, tu étais beaucoup moins sûre de ce que tu étais, ou en tout cas, t'étais sûre de quelque chose que tu n'es plus aujourd'hui. Est-ce que ton rapport au corps a changé, à ton corps, à toi? Est-ce que tu te sens mieux maintenant?
C'est complexe parce que, comme on disait tout à l'heure, genre. L'ensemble de mauvaises histoires que j'ai eues fait que j'ai beaucoup plus de fragilité, mais en même temps, à partir du moment où j'ai réussi à dépasser, on va dire, le gros du trauma, j'étais déjà très fière de moi, et je l'ai fait en essayant de m'apprécier plus qu'avant, de m'accorder plus de crédit. Oui, de m'écouter vraiment pour savoir quand j'ai envie des choses, et si j'en ai pas envie, c'est pas grave. Et du coup, je trouve la vie sexuelle et le rapport au corps toujours archi complexe, mais ce sera toujours comme ça, et genre... j'ai toujours l'impression d'être de cycle en cycle, d'avoir l'impression de comprendre quelque chose, et puis en fait, il y a encore des tonnes, des milliards de choses à comprendre, parce que tout dépend des relations, donc des personnes avec qui t'es aussi. Mais là, je suis en train d'explorer, du coup... me questionner sur est-ce que le fait d'être un mec trans, ça change quelque chose ou ça va changer quelque chose dans mes relations? Quelle part de ma vie sexuelle vient de l'habitude d'avoir été élevée comme une meuf cis? Quelle implication ça a dans ce que j'aime et dans ce que j'accepte ou pas dans mes relations? C'est hyper complexe, mais sauf que maintenant je le vois de manière beaucoup moins angoissée ou flippante. C'est genre juste, il y a plein de choses à voir, et tant qu'on fait attention à soi, ça va bien se passer.
C'est une bonne conclusion, je trouve, parce que ça laisse devant toi tout un terrain d'aventure qui est quasiment infini.
C'est un peu ça.
Et puis on se rend compte, en fait, que vu comment on est éduqué, vu la société dans laquelle on grandit, et ben en fait, avant de commencer à faire quoi que ce soit, faut d'abord déconstruire pas mal de trucs. Et quand on est, en l'occurrence, féministe, on se rend compte de ça aussi, que là, tout commence par une déconstruction. Alors, c'est pas toujours très...
C'est pas toujours
simple. Joyeux, simple, et puis facile. Mais en fait, une fois qu'on a déconstruit, quoi qu'on ait déconstruit, c'est quand même vachement libérateur et on essaye des trucs super. Ouais.
Effectivement. Mais aussi la déconstruction, elle continue toute notre vie.
Ça, c'est sûr. Et on en apprend.
Ça sera toujours, oui, plein de choses à apprendre. Mais c'est chouette.
Mais ouais, c'est chouette.
Trucs, c'est bien.
On va être beaucoup plus riche après.
C'est ça.
Et toi aussi, du coup.
Oui.
Merci beaucoup, Clarence.
Merci à toi.
C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Tous les autres épisodes de Première et Dernière Fois sont à retrouver sur slate.fr et votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi y retrouver mes autres podcasts, C'est compliqué et Lieu du sexe. Si vous désirez témoigner dans Première et Dernière Fois, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse premièredernièrefois@slate.fr. Merci à Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.